Et vous revoilà sur Radio Public. Nous venons d'écouter Guantanamera de Cécile Barra. Encore un vinyle bien rétro à l'image de Vinyle etc. qui nous accueille aujourd'hui, qui nous accueille Radio Public aujourd'hui. Maintenant, on va passer à une chronique que Elsa nous propose sur le Stade Brestois. C'est bien ça, Elsa ?
Oui, bonjour, bonjour. Alors, moi, je ne sais pas si vous êtes sorti dimanche dernier, mais si vous traîniez vers Place de Strasbourg, autour de Francis Leblé, et même dans les rues environnantes, vous avez peut-être entendu... Bon, si vous ne suivez pas le Stade Brestois, cette chronique va peut-être pas trop vous intéresser, mais surtout c'est un petit peu dommage, car suivre le Stade Brestois cette saison aurait rendu votre hiver bien moins morose et désagréable. Car le ciel gris, le crachin, le froid... Eh ben, ils ont une autre saveur quand Brest gagne 2-0 à domicile contre Montpellier, 1-0 contre l'OM, 1-0 en derby à Lorient ou encore 4-3 contre Metz dimanche dernier. Moi, aujourd'hui, au-delà de vouloir vous communiquer mon enthousiasme et de faire honneur au parcours du club, je veux vous expliquer pourquoi le Stade Brestois est en train de vivre une période historique qui va sûrement mener à des grands changements, eux-mêmes sujets à de nombreux débats. Ce qu'il faut savoir actuellement, c'est que le Stade Brestois est deuxième du classement de la Ligue 1 derrière le PSG, club, je le rappelle, au plus gros budget de la Ligue 1. Pour avoir un ordre d'idée, on parle de 700 ou 800 millions d'euros pour le PSG, 250 millions pour Monaco, les actuels troisièmes, et 100 millions pour le LOSC. Brest ne bénéficiait au début de la saison que de la modique somme de 48 millions d'euros, ce qui faisait de lui le cinquième plus petit budget de la Ligue 1. Mais gros budget n'équivaut pas forcément à grosse performance, et bon classement non plus. Comme on peut le voir avec des équipes comme l'OM et l'OL, respectivement deuxième et troisième plus gros budget de la Ligue 1, et qui sont actuellement huitième et dixième. Une chose est sûre, c'est qu'il faut saluer le travail d'Éric Roy, l'entraîneur actuel du Stade Brestois. Éric Roy, ce qu'il a fait avec le Stade Brestois, moi je ne sais pas si vous connaissez le jeu de Football Manager, mais en gros c'est un jeu dans lequel le joueur se retrouve dans la peau de l'entraîneur du club de son choix. Moi mon père, paix son âme, était un fervent joueur de Football Manager. Et a longtemps été coach de la Juventus de Turin, mais aussi de plus petits clubs comme Saint-Étienne ou l'OGC Nice. Et Éric Roy, bien qu'il ait fait un peu la partie que mon père aurait toujours voulu jouer. C'est une success story de fou. Éric Roy, avant d'arriver à Brest, était 11 ans sans entraîner de club. Il est arrivé au stade en janvier 2023, après le renvoi de Der Zakarian. À ce moment-là, les Brestois sont 17e de la Ligue 1. Et Éric Roy n'a qu'une seule mission, sauver leur place en Ligue 1. Mission réussie, car le stade a fini 14e à la fin de la saison. Et en fait, le travail remarquable, il a eu lieu aussi tout au long de cette saison, avec la stabilisation de l'effectif et de la composition de l'équipe, ainsi que le renforcement du jeu collectif. Avant cette saison, le Stade Brestois, il avait tendance à ne pas être trop consistant sur toute la saison entière. Cette année, c'est tout le contraire. Et c'est là où réside le succès vraiment et le travail d'Éric Roy. Une stratégie qui paye avec une équipe de joueurs talentueux et qui jouent bien ensemble. Un jeu qu'on aime voir avec une équipe qui n'a pas peur d'attaquer, qui fait énormément de pressing vers l'avant et qui marque des buts. Ce qui n'est pas vraiment habituel pour des équipes comme le Stade Brestois, qu'on attend plutôt à être en fait en défense. Mais ils ont aussi un bloc de défensif ultra solide. Au début du mois de mars, par exemple, le Stade Brestois comptait parmi la meilleure défense européenne, en égalité avec l'Arsenal. 3 buts pris sur une saison. Ce travail de l'équipe et de l'entraîneur, il est réussi. Et les résultats sont là. Tout d'abord, Éric Roy, il a eu lors de la rencontre contre le Havre un bel hommage des supporters, un tifo à son honneur King Éric, ainsi qu'un tout nouveau chant. Alors, à l'orée de la 29e journée, le Stade Brestois est second. Et donc potentiel candidat à la Coupe d'Europe et, devrait-on le dire, la Champions League. J'aimerais maintenant parler en fait des débats qui s'en suivent, puisqu'il y en a. Le premier, ce n'est pas vraiment un débat, c'est plutôt des plaintes. Et surprise de supporters d'autres clubs et de journalistes qui font ouin-ouin et qui soutiennent que le Stade Brestois en Ligue des Champions ferait baisser le coefficient UEFA français. Alors, qu'est-ce que c'est que ce coefficient ? Je ne vais pas rentrer dans des gros détails, mais en gros, l'indice UEFA, il est important pour chaque championnat national européen, car il attribue un nombre de places qualificatives pour les différentes Coupes d'Europe. Ce coefficient, c'est un savant calcul basé sur des performances des équipes qui participent à ces compétitions européennes. Plus les équipes appartenant à un pays gagnent les matchs, plus ils performent, plus ils vont loin dans les compétitions. Et en fait, plus ce coefficient est haut, et plus des places sont octroyées pour ces championnats européens. L'Angleterre a actuellement le plus haut coefficient. C'est elle donc qui a le plus de places de qualification directe en Coupe européenne. 8, il me semble, en Ligue des champions. La France, suite à des performances moyennes des équipes françaises en championnat européen, a préservé l'année dernière de peu sa 5e place. Cette 5e place, elle permet à la Ligue 1 3 qualifications directes en Ligue des champions pour les 3 premières équipes de la Ligue, une place en tour de qualification pour la Ligue des champions pour la 4e équipe. La 5e du classement ainsi que l'équipe de vainqueur de la Coupe de France, elles seront qualifiées pour les phases de qualification de championnat de la Ligue Europa. Et la 6e équipe de la Ligue 1 sera, elle, qualifiée pour les barrages de la Ligue Conférence. Bon, je suis un peu rentrée dans les détails. Mais les détracteurs du Stade Brestois, ils chouinent. Parce que là, dans l'état, bah, Brest, c'est 2e de la Ligue 1. Et il y a moins de 10 journées de la fin de la compétition. Et que d'après eux, Brest performerait très mal et ferait donc baisser ce coefficient. Bon, ne partons pas trop vite en besogne. Il reste encore des matchs à jouer, il y a encore des défis à relever, comme le match contre l'OL, demain, à Lyon, ou encore l'accueil de Monaco la semaine prochaine. Mais dans l'état, le Stade Brestois n'en déplaise à ses détracteurs, il est très bien parti pour la Coupe d'Europe. L'autre débat, et là on rentre dans un sujet vraiment de société, un réel sujet société brestois, c'est la construction du nouveau stade. Parce que oui, vous ne devez pas être sans savoir qu'un nouveau stade sera construit au Froedeven a priori en 2027. Et la construction de ce nouveau stade, elle n'est pas sans détracteur non plus. Francis Leblé, qui a été construit en 1922 et qui accueille le Stade Brestois depuis les années 50. Donc Francis Leblé, qui a évidemment connu des rénovations depuis les années 50, bah ça reste un peu un stade à l'ancienne. Vous voyez, un stade de centre-ville. Et des stades de centre-ville, pour des clubs en Ligue 1, il n'y en a plus beaucoup. Et surtout quand il y a un projet de construction de nouveaux stades. On a tendance à les excentrer. Ce projet, donc, il est initialement porté par Denis Le Saint et Gérard Le Saint, les co-directeurs du Stade Brestois, mais aussi du Brest-Bretagne Handball. Mais les frères Le Saint, ce n'est pas que le sport. Les légumes que vous avez mangés dans ce restaurant à Brest, c'est sûrement de chez eux. Parce que oui, Le Saint, c'est aussi une entreprise familiale gérée par eux-mêmes et qui fournit les professionnels de la restauration d'une bonne partie de la côte atlantique. On parle de plus de 70 locaux et des centaines de restaurants. Voilà un peu le portrait. La première version du projet en 2018 de ce nouveau stade était estimée à 80 millions d'euros et financée uniquement par des privés, mais elle n'a pas abouti. Les dirigeants l'avaient alors revue avec un budget plus gros, intégrant alors un cofinancement privé-public. Et c'est là que ça se complique un peu. Parce que qui vote comment l'argent public est distribué ? Et ben ce sont les élus. Et les élus de la ville, les écologistes particulièrement, ils ne sont pas super d'accord, sachant que le blé, en fait, il peut être rénové, c'est Francis Leblé. Les raisons écologiques qui contestent cette nouvelle construction, elles sont assez claires. Destruction d'espaces verts contre le bétonnage, menace d'espaces protégés, construction de parkings, densification de la circulation, pollution qui augmente. Les raisons économiques, elles sont assez claires aussi. Dans un communiqué datant de septembre, ils ont annoncé « Il faut être réaliste, le stade coûtera beaucoup plus que prévu. » Et contrairement aux chiffres avancés, beaucoup plus d'argent public. Les aménagements, les subventions directes, les prises de participation, les garanties du prêt, la participation des entreprises publiques locales et les engagements sur des années, cela représente des dizaines de millions d'euros supplémentaires. Et oui, en juin 2023, les dirigeants du Stade Brestois annonçaient un surcoût de 20 millions dans la construction du stade à cause de l'inflation et ont sollicité encore plus d'argent des pouvoirs publics, d'aide des pouvoirs publics. Donc à présent, cette aide, qui serait financée par les contribuables de Brest Métropole, elle devrait s'élever à 37 millions d'euros, sans compter le coût de la démolition de Francis Leblé. Francis Leblé, la rénovation pour le stade, elle est plutôt estimée à 50 millions d'euros. Donc ce projet de stade, il prend du temps. Et ça a pas mal impatienté les propriétaires du club, qui ont fait et font toujours multiples pressions pour que le début des travaux ait lieu en 2025 pour une livraison du stade en 2027. Donc ça prend un petit peu de temps. Et qu'est-ce qu'on sait de ce nouveau stade ? Ce sera un stade de 15 000 places comme Francis Leblé, mais cette fois-ci dont plus de 4 000 places seront réservées à des VIP. Et depuis janvier 2024, officiellement, on sait aussi qu'il s'appellera l'Arkéa Park, le crédit mutuel Arkéa étant partenaire pour les 8 prochaines années. Mais qu'en pense le peuple ? Qu'en pensent les supporters ? Dans une étude d'Ouest France, à ses abonnés, 50% des personnes interrogées étaient contre. Et pour les supporters, pour les ultras, en fait, il n'y a pas vraiment de débat. Ils sont assez largement pour. Pour des raisons que l'on peut comprendre, c'est-à-dire le prestige et la perspective d'évolution du club, pour que Brest rentre un peu dans la cour des grands, à l'image de ses compères au stade plus récent, plus neuf, qui peuvent accueillir des championnats européens. Mais aussi, le club serait propriétaire de son stade, ce qui n'est pas actuellement le cas. Et ça, c'est un peu un argument de taille. Alors en 2024, la tribune de Quimper est occupée par les pro Arkéa Stadium Park. Toute la tribune de Quimper ? Non. Un collectif peuplé d'irréductibles supporters résiste encore et toujours à l'envahisseur. C'est le collectif Sauvons Francis. Ils ont une page Instagram, plein d'autocollants, et ils communiquent sur leur soutien à la rénovation de Francis Leblé pour un foot populaire à l'image du club et de son histoire. Et nous, une délocalisation qui a lieu pour bien des raisons politiques et économiques qui dépassent le foot. Enfin, dernière chose que l'on sait de ce nouveau stade, il sera aux normes UEFA. Les normes UEFA, c'est encore un vaste sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Francis Leblé, actuellement, il n'est pas aux normes. Et oui, au début du mois de mars, dans la plus grande discrétion, des membres de l'UEFA sont venus à Francis Leblé afin de savoir s'il était aux normes et s'il pouvait répondre à ces trois problématiques. La première, c'est l'accueil des médias. Pour l'instant, si Francis Leblé était amené à accueillir des championnats européens, les solutions envisagées, c'est de prendre des cours d'école pour mettre des chapiteaux médias et VIP. On parle de matchs qui pourraient avoir lieu en pleine semaine, le mardi, le mercredi ou le jeudi. Il faudrait aussi construire des tribunes en plus pour accueillir les journalistes et les caméras. C'est très compliqué. La deuxième problématique, c'est la taille des trop petits des vestiaires, pas aux normes. Et la troisième problématique, c'est que Francis Leblé dispose de trois tribunes tubulaires et que celles-ci, pareil, ne sont pas aux normes de l'UEFA. Donc des petits travaux seraient à prévoir pour l'intersaison. Car à en croire le club, eux, ils feront tout pour que les matchs aient lieu à Francis Leblé, avant la construction du nouveau stade. Mais c'est pas le même son de cloche qu'on entend pour Cuyandre, qui, quand il a été interrogé il y a un mois, il a dit, je cite, « Ce n'est pas possible et financièrement inimaginable. Sur un stade qui, à mes yeux, est en fin de vie, on ne va pas effectuer des travaux extrêmement importants parce qu'on doit jouer la Coupe d'Europe. On fera le maximum, dans la limite du raisonnable, pour que les matchs aient lieu à Francis Leblé. Mais l'autre hypothèse, c'est d'aller jouer ailleurs. On ira à Rennes, à Nantes. Aïe, coup dur. La perspective d'un Brest-Arsenal, c'est moins sexy quand on l'imagine au Roazhon Park. Après, moi, j'ai envie de dire, on prendra ce qu'on pourra prendre. Et ce qu'il faut retenir, en fait, de toutes ces problématiques qui sont très actuelles, c'est que ça change souvent. Les avis divergent. Et pour l'instant, les réponses ne sont pas définitives, ni concernant les lieux d'accueil des potentiels matchs européens, et ni pour le futur, surtout si Brest continue sur cette voie-là. Moi, du coup, je vais conclure cette chronique assez vaste et dense de manière la plus possible. Allez Brest, sauvons Francis Leblé, et surtout... Et pour faire la transition vers la fin de cette chronique, je vais remercier Antoine, qui est venu nous prêter un fan de Brest aussi, Ultra Brestois, qui est venu nous prêter une édition de Fanny de la Ninon, la première édition, a priori, de vinyle pressé ayant cette version-là, datant de 1936, qui nous a très gentiment prêté et qu'on va s'écouter tout de suite.
Allô. Sur le quai Guédon, devant le petit pont, chantait la chanson, le branle-bas de la croisière, et dans la blanche baleinière, Jean Gouin, notre brigadier, son bonnet caplé, un peu de côté, me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes 20 ans. Le bidel capitaine d'armes et son cahier puni. Dans la Cayenne, c'est du charme pour je ne sais quel sourire. Mais j'ai dans le cœur une souffrance quand le caletier met clairon sonnait en haute recouvrance au fil de la Ninon. La plus belle de la Ninon, Fanny Capozon m'offrit un pompon de fantaisie. C'était elle ma bonne amie. Elle fréquentait un bistrot rempli de matelots devant le dépôt. Quand je songe à mes plaisirs, j'aime mieux m'étourdir que de me souvenir. À Fanny de recouvrance, j'aimais tes yeux malins, quand ton geste plein d'élégance balançait les marsouins. Je n'étais pas de la maîtresse, mais j'avais la toux en main, et tu venais me voir le dimanche sur le Duguay-Trouin. À master, je suis retraité aux ponts et chaussées, maître timonier. Je fais le service des phares et j'écoute la fanfare de la mer en son tourment, Molène à Ouessant, quand souffle le vent. Tonnerre de Brest est tombé, pas du bon côté, tout s'est écroulé. Dans ce qui reste recouvrance, n'logerai pas un sacco. Et Fanny, ma connaissance, est morte dans son bistrot. J'ai plus rien en survivance, et quand je bois un coup de trop, je sais que ma dernière chance sera de faire un trou dans.